Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Aujourd'hui, nous allons parler des territoires de la bande dessinée et montrer comment ils sont infinis. Autrice et auteur ne cessent d'inventer de nouveaux liens entre texte, découpage et image. Le deuxième livre d'Aloïs Mendoza, La maison des hystériques, en est un nouvel exemple. Dans ce récit, Clémence cherche refuge et réconfort dans la maison des hystériques pour faire le deuil de sa mère. Jeanne l'accueille dans cette communauté où, sans jugement aucun, comme toute personne désireuse d'aller au bout de ce qu'elle est. Les autres résidents sont déjà engagés dans des voies radicales et originales pour se retrouver. Nous serons avec Aloïs Mendoza à partir de 14h15 pour qu'elle nous ouvre les portes de la maison des hystériques. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Merci en tout cas à Fabien pour ce lancement d'émission. Vous l'avez entendu, Marin est aux manettes. Alors je voulais encadrer le livre d'Aloïs Mendoza par trois autres livres, qui ont ce même souci d'explorer, mais pas pour l'exploration elle-même, mais utiliser les codes de la bande dessinée pour les amplifier, pour les contredire, pour chercher de nouvelles façons d'écrire avec le dessin et nous emmener dans d'autres sentiments, d'autres situations. Et je vais commencer par Destin coréen de Laetitia Marty pour la partie scénario et Jung pour la partie dessin. Destin coréen est un livre assez surprenant, comme on n'en a jamais lu. D'une part parce que Laetitia Marty et Jung sont auteurs, un couple dans la vie. Ils sont nés tous les deux en Corée du Sud. Et il y a dans le parcours de Jung des questions profondes où le tourment peut facilement venir, qui est celui de l'adoption. Et on va découvrir à travers la vie de Joy que en Corée du Sud, les femmes célibataires sont extrêmement marginalisées. Et j'appuie sur le mot « extrêmement », qui n'est pas là simplement pour donner un peu d'emphase. Et cette situation des mères célibataires est très difficile, qui pousse de nombreuses femmes à abandonner leur enfant dès la naissance pour ne pas se retrouver définitivement marginalisées. C'est le cas de Joy. L'histoire de Joy est un peu particulière parce que lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, l'étudiant avec qui elle a eu une relation, lui a peur de perdre son statut social parce que il aurait eu cette relation. Et là aussi, la Corée du Sud montre un code de la famille très strict avec une grande importance pour la réussite sociale. Joy, au moment où elle apprend cela, passe devant une librairie et découvre le témoignage d'un auteur qui, à travers un roman graphique, parle de son parcours d'adoption. Et la lecture de ce livre va la bouleverser. Et en fait, ce livre, eh bien, c'est un roman graphique que Jung a écrit précédemment, qui s'appelle « Couleur de peau, miel », où il raconte sa vie, et ça va bouleverser Joy. Et il va y avoir une rencontre entre l'auteur et cette jeune femme, qui va pouvoir lui raconter son histoire. Et donc, à partir de tous ces éléments, Jung, assisté de sa femme Laetitia Marty, à quatre mains, vont raconter ainsi cette histoire de Joy, tout en l'entremêlant de la dimension autobiographique qui permet de donner une épaisseur assez inhabituelle à ce type de récit. On aura dans le développement du récit cette rencontre entre Jung et Joy et comment elle va témoigner de l'importance que le livre a eu pour lui. Et dans une postface, Jung va évoquer ce qu'a représenté cette révélation que un de ses livres ait pu bouleverser mais changer le cours de la vie des décisions de Joy qui était prête à abandonner son enfant. C'est vraiment inhabituel, et pour traiter ce récit qui a plusieurs facettes, on va suivre aussi bien Jung, l'auteur, que Joy dans sa situation personnelle qu'elle raconte. Eh bien, Jung a choisi d'utiliser un noir et blanc avec un travail sur le lavis très précis, auquel il ajoute ses couleurs chaudes, un jaune d'or qui va avoir quelques nuances, mais qui sera vraiment quelques éléments de dessin qui vont apparaître et souligner, animer cette mise en image. Jung est un dessinateur qui a une base réaliste et qui aime s'approcher des personnages, être dans le dessin de leur visage, capter leur regard, cette dimension intérieure qu'il n'est pas si facile que cela de dessiner pour qu'elle ait vraiment cette grande intensité. Et on va vraiment suivre tout le cheminement intérieur de Joy, la nécessité de dire à sa mère qu'elle est enceinte, son père qui est malade, gravement malade, et qui pourrait être profondément bouleversé par cette révélation. Eh bien, on est vraiment au plus près des personnages à tous les moments de cette partie du récit. Et puis, il y a une autre dimension importante qui est celle de la ville, celle des villes de la Corée du Sud, où on a une représentation de la ville qui est assez remarquable, avec notamment, par exemple, tous ces fils électriques qui saturent l'image de dessins, de traits suspendus pour évoquer une sorte d'intensité, d'absence de rigueur, ne serait-ce que cela, sur la façon dont le réseau électrique est représenté dans la ville. Il y a quelques dessins qui sont tout à fait remarquables. Il y a dans cette situation, parfois un lyrisme un peu appuyé, un peu poussé dans la façon de représenter quelques situations, de donner des expressions un peu trop appuyées pour évoquer tel ou tel sentiment, comme ça peut être le cas sur la fin avec une scène de retrouvailles, si on peut dire, et qui a quelques effets un peu trop appuyés. À l'opposé, le témoignage de Joy, qui maintenant s'occupe des enfants, des femmes qui sont confrontées à la même situation, est d'une très grande justesse. C'est un livre qui montre comment l'autobiographie peut révéler l'importance que peut avoir un livre dans un parcours de vie, et notamment ceux des lecteurs. Destin coréen, un livre écrit par Laetitia Marty et Jung et dessiné, les traits mis en couleur par Jung. Les 136 pages de ce livre sont au prix de 20,50 €. Le livre a été publié par les éditions Delcourt et c'est dans la collection Ancrage. J'essaie de vous trouver l'imprimeur, parce que c'est toujours important. Eh bien, le livre a été imprimé en Belgique, virgule. Autre livre qui montre cette façon dont la bande dessinée s'affranchit d'un certain nombre de présupposer et être toujours dans des récits en quête d'autres façons de représenter, d'écrire et de traduire différentes situations. C'est tout à fait le cas de Jour de chasse, qui est un roman graphique de Christophe Dabitch pour la partie scénario et de Jorge González pour la partie dessin et mise en couleur. Alors, mise en couleur, c'est pas tout à fait le mot, bien que Jorge González est un artiste qui a une très grande palette dans le choix de ses couleurs et qui, pour Jour de chasse, a choisi de rester dans les niveaux de gris. C'est important de toujours imaginer que les choix d'un auteur de bande dessinée, comme en littérature, sont des choix affirmés et que ce n'est pas simplement la conséquence d'une compétence ou au contraire d'une absence de facilité dans certains domaines de l'écriture dessinée. Alors de quoi s'agit-il ? Le récit. Étudiant en maths en Finlande, Milan rentre au pays. Nous sommes à Belgrade, en Serbie, en 1992. Sa mère vient de décéder. Ses vieux copains, Boris et Vladimir, le retrouvent et l'invitent à une partie de chasse au sud, non loin de leur village d'origine, vers la Bosnie. Parti d'ex-Yougoslavie pour fuir la montée du nationalisme et la guerre qui venait, Milan n'aime pas la chasse, mais il accepte le voyage. Ayant quitté le pays, il a une dette envers eux, les ayant peut-être trahis en voulant les oublier. En fête de chasse, le trio rejoint une milice et des militaires serbes qui assiègent un village en Bosnie. Après la guerre de Croatie, la Yougoslavie est en guerre en Bosnie. Les nationalismes sont exacerbés, le pays a basculé, Boris a la guerre dans la peau et il y retrouve un sens à sa vie. Il enrôle Vlado, qui oppose à Milan que c'est facile de vouloir rien faire quand tu risques rien. Je pourrais donner encore quelques précisions sur le récit, mais il y a une des très grandes qualités, et c'est propre à l'écriture de Christophe Dabitch, qui a fait quelques bandes dessinées, et qui à chaque fois essaye de décaler le point de vue, de décaler l'approche pour mettre en scène de nouvelles situations, de nouveaux fonctionnements. Comment on est dans la guerre. Est-ce que c'est simplement une question de belligérants appartenant à telle ou telle armée ? Bien sûr, la littérature, comme la bande dessinée, a déjà ouvert un certain nombre de pistes. Mais là, avec la situation de ce trio, où on a vraiment des positions opposées parmi ces trois amis, que ça soit Milan qui est lors de son retour avec un journal qu'il va tenir, qui va apparaître à différents moments du récit, montrer ainsi un point de vue sur la guerre qui est très différent de celui de Boris, qui lui est volontairement engagé et cherche à aller le plus loin possible dans cette expression guerrière. Vlado, quant à lui, a du mal à prendre position, à prendre parti entre Milan et Boris, qui font figure chacun d'opposé. de cette situation assez décalée qui aborde ainsi le conflit à un niveau très intime, puisque tout est vu à travers ces trois personnages. On n'a pas le théâtre des opérations qui apparaîtrait ainsi par une sorte de point de vue extérieur, avec un narrateur extérieur. C'est vraiment par le journal que la narration va pouvoir se développer, donc par la voix même de Milan. Il y a dans ce projet narratif, dans cette rencontre, qui n'est pas la première, qui a déjà donné d'autres albums, entre Jorge González et Christophe Dabitsch, le choix d'une représentation qui est d'une très grande précision, où là aussi chaque parti pris semble pleinement pensé et assumé. Jorge González a donc choisi de travailler en niveau de gris et d'utiliser le noir pour marquer quelques éléments de matière, de vêtements, de coiffure aussi, et de faire un décalage entre les personnages qui sont vraiment tracés au trait et les décors qui, eux, ont un tracé moins fin, moins appuyé, qui va être marqué par un travail sur les grilles, sur la matière même des décors pour animer ces fonds. Et on est tout le temps comme au théâtre, dans cette position où les acteurs sont prépondérants et ressortent, et chacun de leurs propos ressort, et les décors qui sont un arrière-plan pour donner une épaisseur, bien sûr, à cette dimension de la guerre en Bosnie, et de pouvoir ainsi intensifier les points de vue. Dans le dessin de Jorge González, il y a aussi une sorte de virtuosité retenue. C'est un auteur qui a une très grande qualité, une très grande facilité dans sa façon de dessiner, de représenter. Et il y a également une façon de pouvoir se concentrer sur les regards, et c'est particulièrement vrai dans Jour de chasse, avec une façon de donner un trait un peu plus appuyé, plus brut, des regards toujours très intenses, un rapprochement des visages pour que l'expression des différents protagonistes, le trio bien sûr, mais aussi les autres personnages rencontrés. À chaque fois, le principe d'être proche des visages, c'est d'être aussi près des dimensions intérieures, des propos, et qu'ils collent avec l'expression du visage. C'est particulièrement important parce que cette relation entre le texte, le découpage et l'image va, par cette justesse, par ces partis pris, donner une dimension tout à fait particulière à ces jours de chasse. On est dans une écriture sur la guerre de Bosnie qui n'a pas grand-chose à voir avec beaucoup de choses qui ont déjà été lues. Il y a un attachement aux personnages féminins aussi qui sont moins caricaturés. Mais le mot caricature n'est pas tout à fait juste, mais on va dire avec des traits moins appuyés que les hommes. C'est là aussi un parti pris du dessin que l'on peut retrouver chez certains auteurs comme Altan, par exemple. Un livre très surprenant, mais lorsque on est immergé dans ces pages, on réalise à quel point chaque choix, chaque parti pris porte juste pour que ces jours de chasse accompagnent bien après la lecture. Jour de chasse de Jorge González pour la partie dessin et de Christophe Dabitsch pour la partie scénario. Le livre a été publié par les éditions Futuropolis. Et les 136 pages de ce livre sont au prix de 21 euros. Et le livre a été imprimé en France. Musique. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je possède une maison en lisière de forêt. Si tu décides de sortir du monde, je t'accueillerai chez moi sans question, sans condition. Tout commence pour Clémence par cette petite annonce. Jeanne accueille, sans jugement aucun, toute personne désireuse d'aller au bout de ce qu'elle est. Clémence rencontre d'autres résidentes déjà engagées dans des voies radicales et originales dans cette maison des hystériques. En quelques cases, Aloïse Mendoza pose l'existence d'un lieu où rien nous empêcherait d'être nous-mêmes. À travers Clémence, contrainte par le deuil de sa mère, Brigitte et sa grossesse infinie, Rosemary et son retour à la nudité, Galatée, la recluse. L'autrice questionne cette formule « Deviens ce que tu es » approfondie par Nietzsche. Comment se débarrasser de nos illusions ? Sommes-nous influencés par les regards des autres, de l'autre, par notre éducation, nos conditions de vie, nos relations ? Sommes-nous libres comme nous aimons à l'imaginer ? Peut-il exister un lieu, une communauté, où l'absence de jugement, de simples questions, nous rapprocherait de nous-mêmes ? La maison des hystériques pose magistralement cette quête universelle. Aloïse Mendoza débarrasse son dessin des composantes habituelles. Elle choisit des silhouettes souples, longilignes, à la gestuelle précise, marque les expressions des visages par quelques traits, comme les deux points pour les yeux, situe les scènes par des décors minimalistes toujours suffisants. Elle crée le personnage de ce petit garçon que Clémence semble la seule à voir. Il apporte cette dimension essentielle à la relation, le toucher, l'étreinte et le possible abandon de nos freins, de nos peurs. Ce livre rappelle que, comme pour la littérature où l'écrivain revendique chaque mot, en bande dessinée, auteur et autrice revendiquent chaque mot, chaque trait. Bonjour Aloïse Mendoza.
Eh bien bonjour.
Alors, expliquez-nous un peu, donnez-nous des détails sur le parcours de création, comment est née cette maison des hystériques.
Ah, alors la naissance de la maison des hystériques, elle remonte à il y a 3 ans. lorsque j'étais moi-même enceinte. Et en fait, tout est parti d'une série de podcasts France Culture, la série documentaire sur l'hystérie de Pauline Chanu. Et en écoutant moi ce podcast, j'ai été marquée par ces prénoms, par ces femmes qui avaient existé réellement dans l'histoire et dont au final on n'avait pas énormément de traces. Donc j'ai commencé à noter plein de prénoms de potentiels hystériques ou d'hystériques avérés. Et j'en ai fait des personnages. Donc là, ça a été ça le tout début.
Alors, Aloïse Mendoza, là, vous parlez d'hystérique, donc célèbre, ou moins peut-être plus connue, mais comment vous la qualifiez, cette hystérie, et le fait de cette femme hystérique ?
En fait, il y a ce côté, étant donné que l'hystérie, c'est une fausse condition, une fausse maladie qui a été apposée sur les femmes. Moi, je la prends comme un retour de pouvoir, comme quelque chose. L'hystérie, c'est ce qui ne rentre pas dans les cases, c'est ce qui ne rentre pas dans la norme. Mais quand on voit que la norme est pourrie, que le monde va mal, est-ce qu'en fait être en dehors du monde, c'est pas une si mauvaise chose que ça, quoi.
Donc, alors, sur ce point de départ, Héloïse Mendoza, comment vous avez construit votre récit ? Parce qu'on est immédiatement dans le vif du sujet. La petite annonce, c'est la première page. Et on découvre Clémence qui hésite un peu à aller vers cette maison. Et Jeanne qui va l'accueillir avec ses partis pris très affirmés.
Oui, bah en fait, moi le personnage de Clémence, il m'a été très utile d'une certaine façon, parce que Clémence, elle est jeune. On comprend que c'est la plus jeune de la maison qui arrive. Donc elle est jeune, elle est perdue et elle est en profonde dépression. Donc c'est un peu le petit humain qui a besoin d'aide et qui peut être très influençable, très manipulable. Et qui ne sait pas encore ce qu'elle va donner, comment est-ce qu'elle va être au monde. Donc j'aimais bien qu'on découvre et la maison et ses personnages et toutes ces femmes qui vivent là et les décors et tout par ton regard à elle.
Alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus, Aloïse Mendoza, sur cette comment vous développez à la fois chacun des personnages et l'importance, en fait, que chaque scène, que chaque question même va révéler de ce parcours intérieur sur ce « deviens ce que tu es si important ».
Mais en fait, il y a ce truc où moi, les personnages, je les connais très bien, je les connais bien mieux que ce que je le donne aux lecteurs, aux lectrices, parce que moi, j'ai des fiches personnages dans lesquelles j'ai toute leur biographie. Donc, je sais leur parcours de vie, et donc je sais ce qui les a amenés là, à cet endroit-là de cette maison, et aller au bout de leur folie. Après, j'avais pas du tout envie de raconter réellement qu'est-ce qui arrivait à chacune. Je trouvais que c'était peu intéressant, vu qu'en plus ça n'allait pas avec le côté où c'est Clémence qui les rencontre et qui n'en a que ce qu'on veut bien lui en donner. Donc, je voulais vraiment volontairement mettre les lecteurs avec peu de cartes en main, pour aussi se faire que chacun se fasse sa propre idée de qui étaient ces femmes et rester dans dans ce truc très étrange on se perd soi-même.
Alors, Aloïse Mendoza, comment se fait l'écriture d'un récit où on retient les informations, où on doit composer presque par le contour la personnalité des uns et des autres personnages?
Mais c'est quand on a moi, en sachant plus, ça me permet de comprendre pourquoi est-ce que Brigitte, c'est quelqu'un qui va être facilement en colère. Pourquoi Rosemary, c'est quelqu'un qui veut fuir et s'échapper. Et donc, ça va donner à chacune des particularités et donc des façons de parler qui vont être différentes et donc des communications entre elles qui leur seront propres. Moi, les personnages, c'est de la fiction, c'est de la BD, mais ce sont des vrais personnages que j'ai eu beaucoup de mal à quitter à la fin du récit.
Alors, il y a deux personnages très atypiques. Il y a ce fœtus, ce bébé qui n'accouche pas, sa mère retenant cet accouchement et lui se développant. Il doit avoir 3 ans, d'après le récit. Mmh. Donc, on ne le voit pas, mais il parle. Mmh. Et puis, un petit garçon assez mystérieux que seule Clémence semble voir et qui est très dans le toucher, lui. Alors,
oui, il est, ouais.
Pourquoi, qu'est-ce que vous ont permis ces deux personnages ?
Bah alors, ce sont vraiment deux personnages qui n'ont pas grand-chose en commun, parce que le bébé dans le ventre de Brigitte, c'est un personnage en devenir, c'est encore... rien ni personne, c'est juste quelqu'un qui est prisonnier de sa propre mère, parce que c'est elle qui a pour l'instant les pleins pouvoirs sur son existence ou pas. Là où ce que j'appelle le petit bonhomme est un personnage plus mystérieux et qui est uniquement là pour Clémence, pour cette jeune femme. Et qu'on comprend au fur et à mesure que, vu qu'elle est la seule à voir, il n'existe très certainement que pour elle-même. Il n'a pas de contact avec les autres. Là où le bébé à naître ou à ne pas naître de Brigitte, alpague, insulte, et il est déjà très ancré dans le réel. Alors que le petit bonhomme, c'est quelqu'un qui n'existe au final que pour Clémence.
Aloïse Mendoza, comment maîtrisez-vous les différentes lectures possibles de votre récit où les lecteurs pourraient aller dans différentes pistes, comme par exemple pour ce petit bonhomme qui en fait pourrait caractériser l'immense solitude de Clémence qui finalement n'a pas d'étreinte dans cette communauté, à part lui?
Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les récits en général, que ce soit dans les romans ou dans la BD. Quand en tant que lectrice, j'aime pas qu'on m'explique tout. J'aime pas avoir toutes les clés, toutes les solutions et être prise par la main jusqu'au bout. Je préfère que chacun se fasse sa propre idée en fonction de ce qu'il a vécu. Et ce qui fait que on va interpréter les situations, et particulièrement ce petit bonhomme, de façon différente à différents niveaux de lecture, différents moments. Si on relit le bouquin, on le verra pas de la même façon, et quand on prête à quelqu'un ne le verra pas de la même façon aussi. Et moi, ça c'est quelque chose que je trouve important, de laisser une part à la personne qui va lire le livre.
Aloïse Mendoza, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc après cette chanson de Paul McCartney et on pourra parler peut-être un peu, et on parlera plus de dessin. À tout de suite.
Take one.
Okay. Ramon,
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Aloïse Mendoza à l'occasion de la sortie de son livre La Maison des Hystériques. Aloïse Mendoza, vous avez évoqué les différents partis pris, formes d'écriture, choix d'écriture. À quel moment le dessin est apparu pour qu'il soit tant en lien avec votre écriture?
Alors, dans la façon dont j'ai construit ces BD, ça a quand même été fait d'une, on va dire, assez classiquement, où j'ai écrit le scénario et après j'ai fait un chemin de fer, enfin voilà, des choses assez classiques. Mais pendant que j'écrivais, j'avais quand même déjà en tête ce à quoi ça allait ressembler. Donc je l'écrivais, mais avec la rythmique des pages directement en tête, voire la rythmique des cases.
Alors il y a un parti pris fort dans votre mise en image, dans votre découpage, c'est l'absence de cadre à chaque case. On a parfois quelques séparations, mais il n'y a pas de cadre extérieur. C'est une façon de symboliser, de représenter cette maison des hystériques où il n'y a pas de jugement, pas de conditions, donc pas de cadre.
Alors, c'est une très belle interprétation. Je ne suis pas allée aussi loin. vraiment, je l'ai fait de façon très instinctif. Donc, j'ai peu réfléchi, en fait. Moi, c'était comme ça et pas autrement. Peut-être aussi qu'il y avait un côté où ça me permettait d'aller assez vite. Que si j'ai pas de gaufrier bien-être ou si j'ai pas de cadre à chaque fois à imaginer, à dessiner, peut-être que j'ai plus vite, franchement, là, petite colle, je sais pas bien.
C'était pas une question piège, hein, c'était...
Oui, je sais.
Alors, justement, dans le même ordre d'idée, l'absence de cadre permet au fond de chaque case eh bien, d'être lié au fond de la page, et donc le blanc devient d'une grande intensité dans le récit.
Ah, ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très important quand on raconte quelque chose, c'est de laisser l'espace au blanc. J'ai toujours beaucoup aimé le blanc à la base, je viens de l'illustration, pas de la BD. Et j'ai toujours trouvé que le blanc, il était nécessaire et de jamais trop surcharger. Pour laisser respirer, mais surtout laisser respirer le sous-texte, ce qu'on va pouvoir reprojeter dans l'image. C'est de la même façon aussi, je donne tout, si je raconte tout des personnages et qu'il n'y a plus rien à imaginer, mais c'est pareil avec le dessin, s'il y a absolument tout du dessin, je trouve que le cadre est trop fermé quand on lit quelque chose. C'est attaché à ce grand blanc qui permet une imagination de chacun.
Alors, dans votre dessin, Aloïse Mendoza, vous avez choisi une certaine sobriété au sens où vous utilisez un trait plutôt fin avec peu de traits, par exemple pour les visages, on a les deux points pour les yeux, parfois un peu plus appuyés, la bouche. Comment s'est mis en place votre grammaire graphique?
Alors ça a été quelque chose d'assez difficile parce que c'est ma première, c'est mon premier livre que je considère comme une BD. En gros, j'avais publié un autre livre avant, mais les personnages étaient toujours statiques, de phase, donc il y avait quelque chose de très simple. Là, vu que je jouais quelque chose d'assez dynamique et avec plus ou moins des gros plans, qu'on puisse varier les plans que j'allais pouvoir proposer. Il a fallu que je trouve quelque chose qui fonctionne en plan américain, en gros plan, mais aussi vu de loin, avec des personnages tout petits. Et donc j'ai fait beaucoup de tests pour pouvoir voir quel écrit la plus quelque chose d'harmonieux et de créer une unité dans mon dessin. Pas trop de variations entre quelque chose de très proche et après quelque chose de très loin. Et j'en suis arrivée à ce dessin en effet très minimal, avec ces visages très très minimal, où en plus ça m'a parfois donné du fil à retordre pour pouvoir faire passer des expressions, des émotions sur des visages où il y a deux points, un trait pour la bouche, quoi. Donc, c'était pas une mince affaire.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Aloïse Mendoza, justement, par rapport à ces objectifs de votre dessin? Comment ça se passe sur la table à dessin, ou sur la palette, ou sur, sur quoi, alors, ce que vous utilisez?
Moi, je suis dessin traditionnel. Enfin, vraiment, là, ça, tout a été fait au stylo plume. Et j'aime le traditionnel depuis toujours. Je suis très mauvaise en numérique. Je suis une dessinatrice rapide. Je n'aime pas du tout passer beaucoup de temps sur un dessin. Parce que je trouve que dans la bande dessinée, alors il y a des bandes dessinées avec des dessins très fouillés, très fournis, très précis, que je trouve magnifiques, mais j'aime aussi les choses beaucoup plus jetées, beaucoup plus nerveuses, où on sent que ça a été dessiné rapidement, où limite ça a été dessiné dans le même temps que ce qu'il faut pour pouvoir dire le récit. Alors c'est pas à ce point, mais des choses où ça va vite. Ouais, ça c'est important pour moi de pouvoir aller vite dans le dessin.
Et pour la mise en scène, il y a des pages, par exemple, cette discussion entre Clémence et Galatée, la recluse, où on a une unité de temps et de plan, où juste la position de Clémence va se modifier. Comment s'imagine pour chez vous le découpage, la mise en scène, qu'elle vous permet?
En fait, justement, c'est ça, je trouve, tout l'intérêt de la bande dessinée, c'est que suivant ce qu'on veut raconter de la BD au moment où on veut le raconter, on est libre de faire ce qu'on veut comme plan. C'est nous qui mettons en scène. Et là, j'aimais l'idée que de ce moment un peu particulier du récit, parce que c'est le seul moment où Clémence obtient des réponses à ses questions. Et donc j'aimais que ce soit quelque chose de très posé. En fait, d'un coup, l'image se fige un peu et on n'est plus que dans ce moment où Galatée va raconter, va avouer les choses. Et à partir du moment où il y a Jeanne qui arrive, Jeanne qui s'en mêle, ça bouscule en fait cette construction et ce moment de calme que ces deux femmes arrivent enfin à partager, parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Mais ça, je trouve que c'est autant profiter de la liberté que nous donne la BD.
Aloïse Mendoza, par rapport à cette question « Deviens ce que tu es », il y a un échange entre Clémence et Galatée où Clémence demande « Tu crois qu'on peut vraiment aller au bout de qui on est, de qui on veut être ?» Galatée répond « Oui, si on accepte de faire disparaître le monde autour de nous. » Est-ce que vous avez plus d'optimisme?
Mais... Et oui et non. Alors, je sais pas à quel point c'est ce que je pense réellement, mais je crois que oui, je crois que lorsqu'on vit dans le monde, mais c'est notre lot à tous et à toutes, on vit avec des gens, on vit avec des contraintes, on vit dans une société qui fait qu'on ne peut pas être 100% naturel, on est forcé de devoir se contraindre, mais comme tout simplement Brigitte, qui lorsqu'elle arrive dans la maison, ben, en fait, elle se met nue, parce que les vêtements, elle les supporte pas. Et en fait, combien de personnes, si on leur disait, ben, en fait, aujourd'hui, tu es 100% libre, il n'y a plus aucun regard qui pourrait être posé sur toi, on ne pourra rien t'interdire, en fait, se baladerait à poil dans la rue. Donc, ça, on vit en permanence avec des contraintes qui fait qu'on fait société. Ce sont des contraintes qu'on a acceptées, à voir jusqu'où on va et dans l'acceptation de ces contraintes. Mais je pense que ouais, pour que la liberté totale entourée d'autres êtres humains, mais ouais, je pense pas qu'elle soit possible.
Merci beaucoup, Aloïse Mendoza. Je vais rappeler les références de votre livre. Donc, La Maison des Hystériques, c'est publié par les éditions Six Pieds Sous Terre, qui a donc cette librairie à Montpellier aussi, entrée libre, que je vous invite à aller, à fréquenter de manière assidue. C'est un merveilleux endroit. Et donc, le prix de ce livre est de 18 euros. Très bonne continuation à vous, Aloïse Mendoza, et merci.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
la la. La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
Je ne peux que vous inviter à écouter en entier cette chanson de Brigitte Fontaine et d'Ariski Belkacem, qui est sur l'un de leurs premiers albums. C'est tout à fait étonnant et ça colle parfaitement avec La Maison des Hystériques. C'était un choix musical, donc après Young Marble... je retrouve ma note, oui, Young Marble Giants, avec Searching for My White, Ramon de McCartney, et puis donc C'est Normal de Brigitte Fontaine et d'Ariski Belkacem. Je voudrais terminer avec Il se passe des choses, l'intégrale, puisque Il se passe des choses a été publié d'abord en trois volumes, avec un format habituel, un grand format cartonné, et là, l'éditeur a choisi pour l'intégrale d'avoir un format plus réduit qui rappelle celui des romans graphiques. L'auteur de « Il se passe des choses » est Guillaume Chauchat, qui est un auteur étonnant, là aussi, avec des espaces d'écriture narratif qui sont très inhabituels et qui apportent des pistes d'écriture, d'émotion, de sensation assez remarquables. Je vais donc vous expliquer, c'est pas tout à fait le mot, mais vous donner cette envie d'ouvrir un livre de Guillaume Chauchat pour découvrir ce qui est possible avec le dessin. Dans Il se passe des choses, eh bien, il y a donc trois récits, puisque on reprend le contenu de chacun de la première édition, chacun des tomes de la première édition. Le premier, la veille de ses 7 ans, un enfant attend le sommeil dans son lit. Demain, son père l'initiera au rituel qui fait la fortune de sa famille depuis 200 ans, une formule magique ardue, un louis d'or qui se multiplie. La pression est grande sur les épaules du petit bonhomme. Souhaitons-lui d'éviter le désastre. Qu'adviendrait-il de lui s'il n'y arrivait pas ? Ou pire, si par quelque étrange hasard, il n'arrivait à rien d'autre que de transformer l'or en caoutchouc. Il y a de courtes scénettes qui sont autant de poésie visuelle avec différents personnages qui se croisent, qui se recroisent et qui vont créer une toile de fond tout à fait particulière pour ces récits. On a des inspirations très différentes, et notamment celle des haïkus de Kobayashi Issa, qui sont plutôt décalés par rapport aux autres très grands écrivains de haïkus et qui sont célébrés partout dans le monde. Et lorsqu'on lit à la fois l'haïku lui-même et la mise en image faite par Guillaume Chaucha, on a envie que ce plaisir dure et puisse même se développer. En tout cas, tout ça pour arriver au dessin de Guillaume Chaucha, qui est un dessin qui a très peu d'équivalent, tout simplement parce qu'il a choisi une ligne très ronde, une très grande liberté de représentation, une volonté d'être dans le trait le plus juste, au sens où celui qui va permettre l'expression d'être présente, celui qui va permettre au sens de passer, tout en ayant une économie de moyens pour que ça se fasse avec le plus d'intensité possible. Le feuilletage de « Il se passe des choses » donne immédiatement la forme narrative. C'est ce trait très souple qui semble ne pas s'arrêter, qui va être, comme l'écriture cursive, extrêmement souple, et d'ailleurs le lettrage est complètement en lien avec le dessin lui-même. Les personnages sont représentés avec cette même souplesse, et il y a une façon de donner et de conserver toute une liberté dans la représentation. On a par exemple un personnage qui va, en trébuchant, se retrouver avec le pied qui va être dessiné comme enroulé. Et bien quelques pages plus loin, le personnage va réapparaître avec cette forme graphique, ses pieds qui auront comme un petit enroulement sur eux-mêmes avec des figures tout à fait particulières. Il y a par exemple ce dialogue entre deux SDF, deux personnes, et il y a une attitude, une posture qui va permettre de les distinguer, qui est tout en souplesse, comme avachi, et les traits qui vont représenter les bras, le corps, les jambes pourront être stylisé, simplifié au maximum, parce que entre le dialogue et cette position des deux personnages, eh bien, la portée de l'un et de l'autre vont être constamment conjuguées et donner à cet ensemble une efficacité inédite. Il y a également cette façon d'écrire qui peut être avec l'utilisation du rêve, avec des procédés très simples, mais qui vont donner là aussi une liberté d'écriture assez étonnante. Il y a notamment dans la représentation de la voix, comme par exemple ce petit garçon qui essaie de répéter la formule dite précisément par son père, eh bien le dessin va montrer tout le décalage qu'il peut y avoir, comme l'avaient fait Uderzo et Goscinny dans Astérix et Cléopâtre, où lorsque Obélix répète un hiéroglyphe, eh bien le dessin est transformé, abîmé, et montre que la sonorité n'est pas du tout la même. Là, c'est exactement la même situation, et Guillaume Chauchat va poursuivre le jeu et donner là aussi à cette situation une grande ampleur. Les trois récits, en se retrouvant ainsi dans cette intégrale, vont montrer toute la force à la fois de l'écriture, du dessin, de toutes les réflexions qui sont sous-tendues par le choix de tel et tel trait, par le choix de l'épure, par ce jeu, par exemple, avec les lunettes d'un homme, d'un musicien, d'un guitariste. Et à chaque fois, eh bien, il y a un plaisir visuel et un plaisir de lecteur pour toutes ces situations qui sont ainsi imaginée et mise en œuvre par Guillaume Chauchat. Puis il y a ce dessin, ce bonhomme avec son unique cheveu qui rappelle le professeur Nimbus, qui était une bande dessinée de Dax dans les quotidiens, et qui là aussi bien sous la plume de Guillaume Chauchat, bien le système prend une dimension incroyable. Là où c'était ironique, là, elle est poussée à un grand domaine. Guillaume Chauchat a une œuvre très dense, très conséquente, de très nombreuses collaborations, des livres en auto-édition, des livres collectifs, des livres aux éditions 2042, puisqu'il a démarré l'édition dans les éditions 2024, qui sont devenues 2042, et cette intégrale est porte vraiment toute la qualité de à la fois de la création graphique, de l'écriture dessinée de Guillaume Chauchat et des exigences d'éditeurs des éditions 2042. Les 304 pages de ce recueil, de cette intégrale, ont été soignées dans la fabrication, sur aussi bien le choix de la couverture qui est faite et imprimée avec une seule teinte qui est un noir Pantone, c'est-à-dire que ce n'est pas un noir qui est composé par l'ensemble des couleurs, mais c'est un noir plein, et sur le papier également, où on a une main qui va parfaitement avec l'écriture dessinée, un papier assez léger, qui n'est pas blanc, mais écru, et l'ensemble est un grand, grand plaisir de lecture. Donc les 304 pages sont au prix de 26 euros. Merci Marin pour cette technique et bon, on se retrouve la semaine prochaine. Je crois que ça sera la dernière de l'été, de l'année, avant l'été. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.